Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 11 octobre, ravi de vous retrouver après notre émission spéciale au journal Le Monde. Retour à notre studio de RFI. Je vous rappelle que vous pouvez aussi écouter et podcaster cette émission sur le site de la radio, www.rfi.fr. Merci de votre fidélité. Cette semaine, Yann Mince, notre ami et partenaire, nous accompagne. Yann Mince, dois-je le rappeler, rédacteur en chef du magazine Alternative International, dont le numéro 64 est dans les kiosques et désormais sur les tablettes. Il faut le répéter. Bonjour Yann.
Bonjour Pierre-Edouard.
Sur les tablettes.
Absolument, disponible facilement comme ça, dans le monde entier.
Alors avec une consacrée à la Russie.
Oui, il nous a semblé que c'était le moment de publier un dossier sur la Russie, un dossier que nous avons voulu faire sous forme d'une quinzaine de cartes, avec des textes assez courts. Pourquoi des cartes ? Parce que je pense que même si la Russie est proche d'un pays comme la France, on la connaît pas très bien. On garde une image qui est souvent liée à ce qu'était l'Union soviétique, or c'est plus le même pays, puisque une partie des républiques soviétiques sont devenues indépendantes, comme on le sait. Et c'est un pays sur lequel on a, je pense, beaucoup d'idées reçues, qui est pas très bien connu en interne, parce qu'il a quand même, il est quand même très vaste, il a des régions assez contrastées, avec des peuplements qui sont très très différents du point de vue de la densité démographique et du point de vue aussi de, comment dire, de la puissance économique des régions. Tout ça est très concentré, et c'est un pays très dépendant du pétrole et du gaz, et tout ça sont des choses, je pense, qu'on voit bien à travers des cartes.
Et ces cartes sont très précises, très, très parlantes, si j'ose dire. Elles concernent des thèmes différents, d'ailleurs.
Oui, on a essayé d'avoir des thèmes à la fois sur la question démographique, sociale, économique, de défense, puis aussi les relations de la Russie avec son environnement, son étranger proche, comme on dit en Russie, c'est-à-dire en gros les anciennes républiques soviétiques, et puis l'étranger un peu plus lointain, et notamment en ce moment l'Europe de l'Ouest.
Et bon anniversaire à M. Poutine, qui a fêté cette semaine ses 62 ans.
Je ne sais pas jusqu'à lui souhaiter un bon anniversaire, mais prenons acte du fait qu'il a 62 ans.
Alors nous allons commencer notre tour du monde de l'actualité. Écoutons d'abord ceci, Yann, le président turc Erdogan, mardi, à propos de la guerre contre l'organisation de l'État islamique, dont nous allons évidemment reparler.
Ces problèmes ne peuvent se régler par des bombardements aériens. Sans une véritable coopération et un engagement terrestre, on ne pourra pas en finir. En tout cas, pas seulement avec des frappes aériennes. Voilà des mois que cela dure. Mais il n'y a toujours aucun résultat. Et voilà, aujourd'hui, la ville d'Ayn al-Arab, autrement dit Kobané, est sur le point de tomber.
Une semaine d'actualité, après avoir dit en France qu'il aimait les entreprises et les entrepreneurs, Manuel Valls est allé dire à Londres qu'il aimait les affaires, je veux dire le business.
C'est important de le dire ici, à la Cité. My government is pro-business.
Évidemment, nous allons revenir sur l'attribution du prix Nobel de littérature à Patrick Modiano, un des rares grands écrivains français contemporains. Écoutez sa réaction jeudi soir.
Ça a d'abord été une surprise, évidemment, je ne m'attendais pas du tout à être choisi par le jury du Nobel. Et donc, après, évidemment, on a l'impression d'être dédoublé comme ça, comme s'il s'agissait d'un autre vous-même. Puis après, voilà, tout se remet en place. C'est une sorte d'encouragement, parce que l'écriture est une activité tellement solitaire qu'on finit par ne plus... On ne peut même pas être le lecteur de ses propres livres, parce que c'est quelque chose de confus, et ce genre d'événement, c'est comme, oui, quand vous êtes un somnambule, qu'on réveille comme ça et qu'il s'aperçoit quand même que vous communiquez quelque chose.
Patrick Modiano, rendez-vous avec l'actualité française et africaine et avec vos messages tout à l'heure, après le flash.
7 jours dans le monde.
Yann Mince, vous le savez, la présidente brésilienne Dilma Rousseff, candidate du Parti des travailleurs au pouvoir depuis 12 ans, est arrivée en tête du premier tour de l'élection présidentielle dimanche. Elle affrontera son rival du Parti social-démocrate, Aécio Neves, lors du second tour, le 26 octobre prochain. Correspondance dimanche soir de François Cardona.
La voix prise par l'émotion, Dilma Rousseff est apparue soulagée d'être en tête de ce premier tour. Et dans son premier discours, peu après l'annonce des résultats, elle a longuement remercié son mentor, l'ex-président Lula. Dilma Rousseff bien décidée à emporter un second tour qui s'annonce pourtant serré.
Je me sens comme si j'avais reçu un message des Brésiliens me disant que je dois continuer à avancer, que je dois continuer la lutte pour continuer à changer le Brésil.
Dilma Rousseff n'a cependant pas hésité à critiquer durement le Parti social-démocrate de son futur challenger. Car en dépit de sa victoire, la présidente sortante a obtenu le pire score du Parti des travailleurs dans une élection depuis 12 ans. Alors, Aécio Neves s'est déjà dit ouvert à des alliances, sans nommer Marina Silva.
Tous ceux qui veulent participer à notre projet sont les bienvenus. Ce n'est plus le projet d'un parti politique ou d'un groupe de partis alliés. Nous n'avons fait que la moitié du chemin et j'espère bien aller jusqu'au bout.
Les deux candidats ont désormais 3 semaines pour tenter de convaincre les électeurs brésiliens et peut-être aussi Marina Silva qui n'a pas encore donné de consigne de vote.
Et finalement, le Parti socialiste brésilien pour lequel l'écologiste Marina Silva était candidate a opté pour un soutien au social-démocrate Aécio Neves au second tour de la présidentielle. Une semaine d'actualité, le Brésil est au cœur de ce dernier numéro d'Alternative Internationale, Yann, avec une affirmation d'Dilma Rousseff sur la route de la réélection. Ça va être serré, apparemment.
Sauf si une partie des électeurs de Marina Silva décide que, après tout, ils préfèrent voter à gauche qu'au centre droit. Parce que ce qui est assez paradoxal, c'est que Marina Silva vient plutôt de la gauche, voire de la gauche de la gauche, et que là, elle est en train de s'allier objectivement, ou en tout cas de favoriser par son non-report délibéré l'élection éventuelle d'un candidat qui est un candidat de centre droit. Donc c'est un peu étrange. On a l'impression qu'il y a une espèce d'alliance tout sauf Dilma et que ça donne des rapprochements entre des partis qui n'ont pas grand-chose en commun. Ce qui est intéressant, c'est que Marina Silva a dit qu'elle soutiendrait Neves éventuellement à condition qu'il intègre dans son programme un certain nombre de propositions qu'elle avait elle-même avancées, dont par exemple le fait que 10% des dépenses budgétaires soit consacré à l'éducation et des choses comme ça. Je ne suis pas certain que le centre droit soit prêt à prendre ça, ou en tout cas soit prêt à le respecter une fois qu'il sera au pouvoir, mais on verra.
Alors l'autre nouvelle internationale d'importance ces derniers jours, c'est le prix Nobel de la paix attribué notamment à Malala, la jeune pakistanaise.
En fait, c'est un co-prix Nobel, avec un militant indien des droits de l'enfant, qui lui n'est pas aussi jeune que Malala. C'est très symbolique de l'attribuer à cette jeune fille qui a été directement victime dans sa chair du fanatisme, de l'intolérance et du refus de l'éducation des filles. J'étais un peu surpris quand même par un choix de quelqu'un qui certes est extrêmement courageux, qui est très symbolique, mais qui n'a quand même pas, vu son jeune âge, une très très longue trajectoire d'activité. Donc,
en tout cas, ça va l'aider.
Ça va sûrement...
Ça va la protéger, peut-être.
Ça peut aussi un peu la statifier un peu trop tôt. Ce qui peut être un danger, c'est de se retrouver... Moi, je me souviens du prix Nobel donné à Obama très rapidement après son élection.
Il n'était pas content d'ailleurs,
Je pense qu'il avait raison, parce que c'était pas forcément un service à lui rendre, et c'était pas forcément non plus un service à rendre au prix Nobel de la paix en soi, au prix, je veux dire, lui-même, à l'institution, parce que c'était pas quand même prioritairement un pacifiste. C'est un président de la République, et un président de la République américaine en plus.
Alors on parlait, Yann, de Vladimir Poutine, qui a fêté ses 62 ans en Sibérie, paraît-il, cette semaine. Il y a en ce moment une réunion de l'Union Eurasienne qui, je rappelle, coiffe la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie. C'est une petite union eurasienne.
Une petite union dans laquelle Poutine voulait absolument intégrer l'Ukraine. Mm-hmm. Et son grand échec depuis le début de la crise ukrainienne, ce n'est pas parvu à intégrer l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est à l'échelle de ce qu'était l'Union soviétique et de ce que serait une communauté eurasiatique, une vraie, disons, importante, c'est un gros morceau économique comparativement. Le Kazakhstan, c'est pas mal, la Russie, c'est gros, mais l'Ukraine, ça aurait été bien dans le paquet. Oui. Or, l'Ukraine n'y est pas, n'y sera pas, a priori, à vue humaine. Elle se rapproche plutôt de l'Union européenne, même si l'Union européenne y va lentement sur le plan économique dans le rapprochement pour ne pas trop braquer la Russie justement, mais évidemment c'est clairement le fait que l'Ukraine ne soit pas un échec pour Poutine, un échec qu'il essaie de venger par des moyens plutôt militaires.
Une semaine d'actualité.
Et repartons, Yann, à la frontière turco-syrienne, côté Syrie, dans la ville kurde de Kobané, pour reparler des combats entre les Kurdes et les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Écoutez par exemple ce reportage de l'envoyé spécial de Radio France, Omar Waman, mardi.
Une ambulance arrive de la ville de Kobané, Elle tente de se frayer un passage au milieu des manifestants kurdes de Turquie qui se sont approchés au plus près de la frontière pour assister au combat qui font rage. Abid, de la ville de Diyarbakir, est lui venu pour se battre.
Le Kurdistan, oui. Je suis kurde, je veux traverser la frontière, mais l'armée turque m'empêche d'avancer. Ce sont mes frères qui se battent de l'autre côté. Ils se font massacrer et moi je suis là. Je veux aller combattre ces monstres de Daesh.
Un soldat turc dans un blindé demande de reculer, mais personne ne l'écoute. Faïza a, elle, quitté Kobané avant l'entrée des djihadistes. Une paire de jumelles autour de son cou lui a permis de voir ce qu'elle redoutait par-dessus tout. Un drapeau du groupe État islamique flottait sur sa ville.
Nous ferons tout pour enlever ce drapeau et mettre le nôtre à la place. Ces gens-là sont comme la peste. Ce sont des barbares, des animaux. Ils sont ce qu'il y a de pire au monde. Daesh n'a pas le droit de venir et de prendre notre terre. C'est notre devoir de défendre Kobané.
Les gendarmes turcs, qui ont de plus en plus de mal à contenir la colère des manifestants, finiront par disperser la foule à l'aide de grenades lacrymogènes sous le crépitement des mitraillettes qui résonnent au loin.
À suivre évidemment dans nos journaux, l'inaction de la Turquie à Kobané a provoqué un soulèvement des Kurdes de Turquie. Correspondance de Jérôme Bastion, jeudi.
Des banques, des supermarchés, des bureaux de poste, des permanences du parti AK au pouvoir, des sous-préfectures, des centres culturels, des mairies et parfois des commissariats de police, tous brûlés. Malgré le couvre-feu instauré dans le sud-est, les rassemblements se sont multipliés hier avec leur lot de barricades et d'affrontements avec les forces de sécurité et aussi souvent de pillages. Seules les expéditions punitives et les heurts entre factions politiques rivales ont pu être, dans l'ensemble, évitées. Les médias comptabilisent tout de même au moins 3 nouveaux morts sur l'ensemble du pays et l'interdiction de sortir dans les rues, bien que très peu respectée, a été reconduite de 24 heures dans la plupart des cas. Réunissant un cabinet restreint consacré à la sécurité, le Premier ministre a promis le retour à l'ordre dans les plus brefs délais et dénoncé l'attitude irresponsable du parti pro-kurde HDP qui avait lancé le mot d'ordre de mobilisation lundi soir. Selon Ahmed Davutoğlu, la communauté internationale, en laissant impuni le régime syrien responsable de la déstabilisation de la région, n'est pas non plus exempte de critiques.
7 jours dans le monde.
Et avant de vous retrouver, Yann, il nous faut reparler de l'Ukraine, passer au second plan un petit peu de l'actualité depuis quelques semaines. Mais selon l'ONU, le conflit entre les forces ukrainiennes et les séparatistes pro-russes aurait fait plus de 3600 morts. Correspondance de Kiev signée Sébastien Gobert, jeudi.
Selon les Nations Unies, 10 personnes en moyenne meurent par jour dans le Donbass. À entendre les grondements réguliers de l'artillerie qui résonne jusque dans le centre-ville de la capitale séparatiste Donetsk, cela n'étonne personne. Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre autoproclamé de la République populaire de Donetsk, Alexander Zakharchenko, a bien insisté, il ne croit pas à la trêve décrétée il y a plus d'un mois.
Je ne sais pas comment se déroule ce cessez-le-feu. En fait, je ne sais même pas si c'est un cessez-le-feu. Et croyez-moi, quand je vois ce qu'ils nous font, je n'ai qu'une seule envie, prendre une arme automatique et aller à l'aéroport, me battre moi-même.
Alexander Zakharchenko rejette entièrement la faute des combats sur les provocations des forces ukrainiennes. Si les tirs semblent en fait venir de tous les côtés, les chefs militaires séparatistes sont ouvertement engagés dans la phase active d'une offensive afin de s'emparer de la position stratégique que représente l'aéroport de Donetsk. Les dirigeants séparatistes affirment ne pas vouloir couper tous les ponts avec l'Ukraine et même envisager la création d'un partenariat économique privilégié. Mais vu la situation actuelle, les négociations économiques sont encore très loin de remplacer le fracas des armes.
À noter aussi dans l'actualité internationale cette semaine, la mort d'un premier patient à la suite d'Ebola aux États-Unis. L'homme avait séjourné au Liberia. Une semaine d'actualité toujours en compagnie de notre ami Yann Mince, rédacteur en chef de l'excellent magazine Alternative Internationale. On va commencer par la situation à Kobané et avec une position des Turcs un peu étrange. Ils regardent en fait.
Elle n'est pas si étrange que ça.
De premier abord, ça peut paraître étrange. Oui.
Si on considère quelles sont les priorités des acteurs dans la région. Pour beaucoup de gens qui sont hors du Moyen-Orient, singulièrement dans les pays occidentaux, dont certains otages ont été décapités par les gens de l'État islamique, évidemment, l'État islamique, c'est l'incarnation du mal absolu. C'est-à-dire, on parle de diable, de barbare, etc. C'est clair, ce sont des méthodes ignobles, sanglantes, tout ce qu'on voudra. Mais il n'empêche que pour les acteurs de la région, et notamment pour les États, je pense à la Turquie, je pense à l'Arabie Saoudite, Est-ce que c'est vraiment l'ennemi le plus important et le plus durable? Je pense que pour le gouvernement de M. Erdogan, du président Erdogan maintenant, puisqu'il n'est plus Premier ministre depuis cet été, mais président, je pense que son ennemi prioritaire, c'est son adversaire le plus dangereux, c'est le PKK, le c'est-à-dire le parti Kurdes. Des Kurdes de Turquie.
De Turquie.
Et je rappelle que c'est à peu près 20% de la population, les Kurdes de Turquie, beaucoup à l'Est, et puis aussi beaucoup dans les grandes villes, puisqu'il y avait beaucoup de migration dans les grandes villes de l'Ouest. Et donc, de ce point de vue-là...
Dangereux parce qu'ils veulent leur indépendance.
En tout cas, ils sont dans un processus depuis longtemps de revendication, d'indépendance, d'autonomie, on ne sait jamais exactement. Il y a une longue lutte armée, il y a plutôt une accalmie de ce point de vue-là et une négociation. Mais
voire de terrorisme, selon les autorités
turques. De terrorisme à certaines époques, oui. Mmh. Avec une grande brutalité de l'armée turque dans la répression. En tout cas, pour le gouvernement d'Erdogan, le danger le plus durable, celui dont il est certain qu'il restera, c'est le PKK. Alors que l'État islamique, d'abord, c'est pas en Turquie, et c'est pas sûr que ce soit quelque chose de durable. Donc, effectivement, actuellement, les Kurdes qui se battent à Kobané sont des Kurdes de Syrie, mais d'une branche du PKK qui est syrienne. Donc, ça veut dire que ce sont des alliés du PKK turc. Et par ailleurs, cette branche syrienne du PKK a été longtemps plus ou moins alliée, objectif, du régime de Bachar el-Assad. Donc, ça veut dire qu'actuellement, ce que fait le président Erdogan, c'est de laisser l'État islamique massacrer ses ennemis et réduire autant que ça peut militairement la branche syrienne des PKK et en empêchant les Turcs du PKK de se franchir la frontière.
Ça s'appelle bien la réalpolitik. Hein.
C'est de la réalpolitik, tout à fait.
Alors, les Kurdes de Turquie ont manifesté et on peut parler quasiment d'émeutes, là. Plus de 30 morts cette semaine.
Bien sûr. Bah, quand vous avez 20% de la population qui voit ce qu'ils considèrent comme ses frères ou ses cousins se faire massacrer sans pouvoir intervenir, puisque l'armée turque empêche les Kurdes de Turquie d'aller de l'autre côté, en Syrie, pour se battre avec les Kurdes de Syrie contre l'État islamique. Donc effectivement, voilà des gens qui sont révoltés. Et le président Erdogan prend un grand risque, parce que je disais qu'il y avait un processus de négociation avec le PKK, et le patron du PKK, le chef du PKK, qui est en prison, Abdullah Öcalan, a dit « si jamais Kobané tombe, le processus est terminé ». Or, l'une des choses que Erdogan met en avant devant l'opinion publique turque, c'est de dire « je suis en train de mettre fin au conflit entre Kurdes et Turcs en Turquie. Il prend effectivement le risque de ne pas y arriver.
Alors Yann, nous avons deux questions d'auditeurs. Valère Abafoussam, des réactions plutôt. Ne pensez-vous pas que les... Ça s'adresse à vous. Hein. Ne pensez-vous pas que les États-Unis et leurs alliés sont en train de tomber dans leur propre piège, ayant pris sur eux d'armer l'État islamique qui aujourd'hui se retourne contre eux, que ce soit en Irak et en Syrie? Première réaction, c'est Valère Abafoussam au Cameroun et Nestor Akisangani qui note, selon lui, que les bombardements de la coalition occidentale en Syrie, c'est juste s'attaquer aux effets plus qu'à la cause de la montée en puissance des djihadistes.
Alors, je vais commencer peut-être par la deuxième question. C'est parce que les États-Unis n'ont pas les moyens de s'attaquer à la cause. La montée de l'État islamique en Irak et en Syrie sont en grande partie dues à des causes internes. L'État islamique a profité en Irak de la frustration de la communauté sunnite d'Irak. Et ce problème-là ne peut être résolu que par le gouvernement de Bagdad. Et même si le gouvernement de Bagdad est allié des États-Unis, il fait ce qu'il veut. Et les États-Unis ne sont pas capables de forcer le gouvernement de Bagdad à faire des concessions sunnites pour couper l'herbe sous le pied à l'État islamique. Et en Syrie, je dirais que c'est un processus un peu différent, mais pour que l'État islamique ne prospère pas, il faudrait soit que le régime de Bachar el-Assad tombe et qu'il ne soit pas remplacé par l'État islamique, soit qu'il y ait une solution négociée dont le gouvernement de Bachar el-Assad ne veut pas. Quant au fait que les États-Unis aient armé l'État islamique, c'est faux. Peut-être que des alliés des États-Unis ont armé l'État islamique, mais jamais les États-Unis n'ont armé directement l'État islamique. Que des gens en Arabie Saoudite, au Koweït, dans les Émirats Arabes Unis, aient donné de l'argent à l'État islamique pour l'armée, c'est une chose. Mais les États-Unis directement, non, ils n'ont rien fait.
Et à noter dans le numéro d'Alternative Internationale un excellent article d'un certain Yann Mince sur les fondements de l'État islamique, justement.
Oui, j'ai essayé d'expliquer un peu d'où vient l'État islamique, notamment en Irak, pourquoi son implantation en Irak commence à évoluer, sur quelle frustration des sunnites d'Irak il repose, c'est celle qu'il exploite, et éventuellement, est-ce qu'il est possible, à un moment ou à un autre, et pour l'instant on n'en voit pas les signes, qu'une partie des sunnites d'Irak, une partie importante, se soulève contre l'État islamique, qui serait la meilleure façon, que les gens de l'intérieur du pays eux-mêmes disent on ne veut plus de l'État islamique et prennent les armes contre lui. Pour l'instant, on n'en est pas là, en tout cas pas beaucoup.
Yann, nous allons marquer une pause pour écouter quelques informations de ces dernières heures où il sera sans doute question de la situation Kobané et on se retrouve après. A tout de suite donc.
Merci pour toutes ces informations. Après l'essentiel de l'actualité de ces dernières heures, retour à notre revue de 7 jours d'événements sur la planète avec la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Yann Mince, le rédacteur en chef du magazine Alternative Internationale, est avec nous cette semaine. Magazine que vous trouvez en kiosque, mais aussi sur tablette désormais. Dans quelques minutes, nous partirons pour l'Afrique, destination Kidal, la République démocratique du Congo, la Centrafrique et le Burkina Faso. Mais d'abord, arrêtons-nous en France. Vous avez entendu tout à l'heure Manuel Valls dire qu'il était, je cite, « pro-business ». Le Premier ministre veut aussi s'attaquer à ce que l'on appelle les acquis sociaux, notamment l'assurance chômage. Vous avez dit « social-libéral » ou « libéral tout court » Anissa El-Jabri.
Manuel Valls veut s'attaquer au blocage, au conservatisme, dit-il. Une litanie de mesures sociales libérales crie une partie de la majorité. Assouplissement des seuils sociaux, extension du travail dominical, ces deux réformes sont sur la table, mais la liste des acquis sociaux sur lesquels le gouvernement pense à revenir, des totems comme disent certains ministres, cette liste ne cesse de s'allonger. Je me bats depuis longtemps pour une vision libérale de l'économie, a dit la semaine dernière le ministre du Travail dans une interview ensuite retirée. Sur l'indemnisation des chômeurs à revoir, François Rebsamen a en revanche assumé, tout comme le secrétaire d'État au Parlement, tout comme surtout Manuel Valls. En tournée européenne, le Premier ministre l'a même répété à ses partenaires, manière de rassurer Bruxelles sur la volonté de réforme de la France, quitte à multiplier les chiffons rouges pour une partie de la gauche.
Suite d'une semaine en France, avec un peu de lumière dans la grisaille ambiante, c'est-à-dire le prix Nobel de littérature attribué à Patrick Modiano jeudi, Catherine Fruchon Toussaint.
J'étais un peu surpris, ça a été inattendu, alors j'ai continué un peu à marcher pour me mettre dans le...
Patrick Modiano, comme souvent, ne finira pas sa phrase. Il n'aime pas vraiment parler en public, et même pour donner ses impressions sur ce prestigieux Nobel qui vient couronner son œuvre, il hésite. Le monde entier, lui aussi, a été étonné par le choix de ce lauréat, car même si personne ne conteste la qualité littéraire de son travail, la singularité de son univers, qui n'a de cesse de revenir sur l'occupation de Paris et sur la zone d'ombre de l'époque, pouvait l'éloigner de l'universalité. Son écriture au couteau aussi aurait pu le desservir, comme le note l'un de ses biographes, Denis Cosnard.
Longtemps, on a un peu dédaigné Modiano, c'était la littérature facile, parce qu'effectivement, ça se lit très facilement, et puis que ça avait du succès, bon, ce qui est toujours un peu suspect. Et on mesure aujourd'hui combien cette œuvre, elle pèse, elle est originale. Voilà, il y a un ton, une manière Modiano qui n'appartient qu'à lui et qui méritait d'être récompensé.
Un Nobel qui va permettre aussi de faire traduire son œuvre à l'étranger. Par exemple, à ce jour, seuls 10 titres ont paru en anglais, dont le dernier date de 1998. Et puis le romancier va sans doute continuer d'inspirer les autres artistes à l'image de cette chanson, interprétée par un autre minimaliste, Vincent Delerme.
Je l'appelle Patrick Modiano.
Sept jours en France.
Suite d'une semaine d'actualité, je suis sûr que vous êtes un grand lecteur de Patrick Modiano, Yann.
Non, je dois avouer que j'ai lu un ou deux de ses livres il y a assez longtemps. J'en ai gardé souvenir d'une belle plume, assez classique, assez élégante, assez majestueuse. Je ne suis pas extrêmement sensible à son univers, mais il faudrait que j'en lise plus pour avoir un avis plus étayé.
En tout cas, il faut que je dise que dans votre magazine Alternative Internationale, vous n'hésitez pas à parler littérature internationale. Même là, il y a deux pages sur le phénomène de la nouvelle édition au Pakistan, par exemple.
Oui, parce que je pense que c'est intéressant de découvrir les pays, d'expliquer les pays, d'essayer de les analyser, de les étudier d'une façon un peu scientifique, si je puis dire, même si c'est du journalisme. Et puis, il faut aussi connaître leur création littéraire, la sensibilité qui s'y exprime. Et la littérature pakistanaise est intéressante à cet égard, parce que ce sont des écrivains qui sont d'ailleurs souvent qui vivent à l'étranger et qui, de l'étranger, peuvent porter un regard parfois un peu acide, souvent assez drôle, et peuvent aussi écrire sans crainte, parce que c'est pas toujours facile d'écrire au Pakistan pour des tas de raisons, à cause du régime, à cause du poids de certains islamistes à l'étranger. On peut plus facilement parfois dire les choses.
Alors, Manuel Valls, social-libéral ou libéral tout court? Ou socialiste?
Je pense que Manuel Valls prend un malin plaisir à mettre les pieds dans le plat de ce qu'il estime le politiquement correct. Alors évidemment, quand on met les pieds dans le plat, parfois on met les pieds dans le bon plat, et puis parfois on peut se tromper de plat. Je suis pas sûr qu'il mette toujours les pieds dans les plats qu'il faut. J'étais assez surpris par son discours sur l'assurance chômage, etc. Et puis les discours de François Rebsamen sur les chômeurs. Mmh. Non pas qu'il y ait pas probablement, certainement, un pourcentage de gens qui profitent du système indûment. Mais quand on regarde un peu les analyses un peu sérieuses, y compris celles, les chiffres de Pôle emploi qui l'organisme qui en France s'occupe de ça, on s'aperçoit qu'il y a dans les gens qui, les 20% de gens, il y a eu des tests récemment dans certaines régions, 20% de gens qui, dont on estime qu'ils ne cherchent pas du travail, c'est pas forcément qu'ils n'en veulent pas, c'est qu'une partie d'entre eux, la majorité vivement, sont découragés et ils ont besoin de soutien pour s'être activés. Il y a très peu de chômeurs, visiblement, d'après les chiffres de Pôle emploi, qui ne cherchent pas délibérément de travail, qui n'en veulent pas. Et il faut dire, et je pense que c'est important, qu'une partie de ceux qui ne des chômeurs indemnisés qui ne cherchent pas de travail ont un travail au noir à côté. Et pour avoir un travail au noir, il faut avoir un employeur qui vous paye au noir. Donc je pense que si on s'attaque à la fraude éventuellement sur le chômage, sur les indemnités chômage, il faut aussi s'attaquer au travail au noir parce que ça implique aussi un certain nombre de gens qui profitent du système, mais pas du côté des chômeurs, du côté des employeurs.
Alors il y a aussi dans l'actualité française la chronique, la rubrique désormais Sarkozy, Nicolas Sarkozy et la justice. Donc information judiciaire ouverte pour les frais de campagne de Nicolas Sarkozy et le titre du Monde mardi, les hélicoptères du Kazakhstan, l'affaire d'État qui inquiète Sarkozy, la justice enquête sur d'éventuelles rétrocommissions lors de contrats signés en 2010. Voilà une rentrée un peu difficile pour l'ancien président.
Oui, j'ai l'impression que Nicolas Sarkozy s'attendait probablement à ce qu'on l'attende beaucoup plus que c'est le cas dans l'opinion française. Effectivement, une partie des militants de l'UMP l'attendent. Ces meetings ont l'air bien remplis. Ils sont sûrement bien organisés, puisqu'il a une certaine expérience de l'organisation des meetings, j'ai pu comprendre, pendant la campagne. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une attente si forte que ça dans l'opinion.
Le dernier sondage donnait 66% de Français ne voulant pas du retour de Nicolas Sarkozy en politique.
En ce qui concerne les affaires, c'est plus compliqué, parce que jusqu'à maintenant, je ne sache pas que quelque chose lui soit tombé vraiment dessus pour différentes raisons, différentes procédures, des raisons de fond, etc. Quant à l'affaire du Kazakhstan, je crois que ce sont des rétrocommissions qui concernent certains de ses collaborateurs, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient pour l'instant directement mis en cause.
Une semaine d'actualité.
Merci de votre fidélité. Nous allons en Afrique, Yann, au Mali, d'abord à Kidal, après l'attaque mardi soir par des djihadistes d'un camp de la MINUSMA. Guillaume Thibault.
Visiblement, les djihadistes avaient une cible précise, la station de stockage d'essence située au sud du camp. Le dernier obus est tombé à une centaine de mètres de ce lieu stratégique. Cette précision des frappes inquiète l'état-major de la MINUSMA. Pour ce doyen de Kidal, la force onusienne et l'armée française ont montré leurs limites.
Les gens, ils ont été effrayés, parce que c'est rarement arrivé, ça. Une attaque frontale comme ça. Les gens pensaient qu'on ne pouvait pas attaquer le camp de l'administration et rester impuni. Ça montre l'impuissance des forces étrangères présentes à Kidal. Apparemment, ils ne font pas les poids même. Ils n'ont pas réagi efficacement, du moins.
Autre élément d'inquiétude, les djihadistes n'ont apparemment pas de difficulté pour s'approcher de Kidal. Si cette attaque fait peur, la population, victime d'une violence quasi permanente depuis des années, vit la situation avec fatalité.
Il est évident que ça fait frémir, ça fait peur. La violence est là, c'est une fatalité, on n'y peut rien. On n'y peut rien, c'est devenu vraiment une habitude. Je sais que les gens, ils ont peur. Et il faut reconnaître quand même que les populations sont épuisées.
Par mesure de sécurité et crainte d'une nouvelle attaque, la MINUSMA a interdit l'accès au camp de Kidal à tout son personnel civil.
Suite d'une semaine d'actualité en Afrique, et revenons maintenant, Yann, sur la comparution mercredi devant la Cour pénale internationale à La Haye d'un président en exercice, en l'occurrence le président kényan Uhuru Kenyatta. Reportage de Pierre Pinto.
Ce n'est pas encore l'heure de vérité pour Uhuru Kenyatta, laissant ses pouvoirs constitutionnels à Nairobi entre les mains de son vice-président. Le chef de l'État kényan a été accueilli par une foule de supporters à son arrivée à la CPI. Durant l'audience, l'accusé Kenyatta a gardé le silence, aucune déclaration, même quand la juge Kuniko Ozaki l'y invite. C'est son avocat Stephen Kay qui demande l'abandon des poursuites. Pas d'enquête, pas de preuves, donc pas de procès, résume-t-il en substance. Il faut abandonner les charges. Les preuves existent, répond l'accusation, et s'il n'y a pas d'enquête, c'est parce que le gouvernement kényan fait de l'obstruction. La procureure Fatou Bensouda demande d'ailleurs que la Cour reconnaisse qu'il y a entrave à l'enquête, que les États membres de la CPI, dont fait partie le Kenya, sanctionnent Nairobi le cas échéant, et elle demande surtout que le procès soit ajourné sine die, c'est-à-dire que les charges contre Uhuru Kenyatta soient maintenues en attendant la reprise des poursuites. Le représentant des victimes, lui, soutient d'ailleurs cette position. Hier, les juges n'ont pas pris de décision, ils le feront plus tard, mais c'est en vainqueur, tout sourire, acclamé par les siens, qu'Uhuru Kenyatta a quitté la Cour pénale internationale, adressant quelques mots en swahili à ses supporters.
Yann, c'était quand même la première comparution d'un chef d'État en exercice devant la Cour pénale internationale. Encore un Africain, vont dire nos amis africains.
C'est vrai, et en même temps, si on voit la limite de l'exercice, c'est-à-dire que la justice, visiblement, ou l'administration kényane, d'après en tout cas le procureur de ce pays, refuse de faire des enquêtes, évidemment, c'est peu probable que la justice ou l'administration d'un pays amène à un tribunal international des éléments contre le chef d'État de ce même pays. Donc on voit un peu là les limites du système. Est-ce qu'on peut forcer les autorités kényanes à livrer des éléments éventuellement à charge contre le président? C'est probablement très bien qu'il n'y ait pas d'impunité des chefs d'État, y compris en exercice, mais en même temps, c'est la limite structurelle de l'affaire.
Toujours des tensions au nord du Mali.
Oui, des tensions au nord du Mali, c'est à mon sens assez prévisible, parce que les problèmes du nord Mali, les problèmes politiques plus structurels, en gros la négociation entre les populations du nord Mali, notamment Touareg, mais pas seulement Touareg, et le gouvernement central pour un statut spécial du Nord Mali ou d'une partie du Nord Mali piétine, n'aboutissent pas. Et par ailleurs, le terrorisme djihadiste, certes il a reflué, certes il est parti, mais il n'a pas été totalement éliminé, parce que on est mis une balle du terrorisme avec une offensive militaire classique. Et les pauvres casques bleus de la MINUSMA, et qui dont on découvre qu'ils ont du mal à se défendre, ils se retrouvent dans la position assez classique de casques bleus, qui sont dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Là, on parle de casques bleus qui viennent pour un certain nombre de pays africains peut-être, mais en tout cas qui connaissent pas forcément le terrain malien et qui ont affaire à des guérillas qui fait des coups de poing. Et très peu d'armées dans le monde sont capables de se défendre contre une guérilla, en plus une guérilla aussi, bien enracinée qu'elle est dans le paysage du Nord-Mali.
Yann, nous avons une question sur un autre sujet de Diallo à Conakry qui s'interroge autour d'un rapport qui a été fait par une fondation qui s'appelle Mo Ibrahim sur le classement des États africains. Il nous écrit « Le classement de ces 52 États africains depuis le plus démocrate au plus anarchique a été remis en cause dans toute sa forme en relevant qu'il y avait un léger décalage entre ce rapport publié et les réalités que vivent les populations sur le terrain. Ce rapport montre qu'il y a une progression de la situation de la population en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Niger. Alors ça, évidemment, ça pose toujours le problème du décalage entre les chiffres et la réalité.
Ça pose surtout la difficulté de savoir quels indicateurs on prend pour classer les pays. Est-ce qu'on a, parce qu'évidemment, selon qu'on prend des indicateurs politiques, économiques, juridiques, qu'on les mélange, comment on pondère chacun, et puis ça prend aussi en compte la difficulté d'évaluer, enfin de trouver des statistiques fiables dans ce nombre de pays africains, ce qui est pas évident. Les organisations internationales le savent, elles compilent ce qu'elles trouvent, ça vaut ce que ça vaut. Je pense que en Afrique, les chiffres, il faut les manier encore plus qu'ailleurs, avec précaution.
Réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez à nous écrire par courriel et aussi à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Un bonjour aujourd'hui à Joseph à Lubumbashi, à Mirnel à Kinshasa. Bonjour à Epiphané à Tombouctou, à Socrate à Kai, à Harry Jaona à Madagascar et un bonjour à André Julien à Paris.
Sept jours en Afrique.
Et nous partons, Yann Mince, pour la Centrafrique, où pour la première fois depuis leur arrivée à la mi-septembre, les casques bleus ont été visés par une embuscade à Bangui. Un casque bleu a été tué. D'autre part, des troubles dans la capitale ont fait 5 morts cette semaine. Enfin, il faut ajouter à cela un vif débat, c'est le moins qu'on puisse dire, autour de la gestion de fonds offerts à la Centrafrique par le gouvernement de l'Angola, Olivier Roger.
L'utilisation opaque des fonds angolais par la présidence est sans doute la goutte qui a fait déborder un vase déjà rempli de frustration, tant côté anti-Balaka que Séléka. Paradoxalement, les deux mouvements se rejoignent aujourd'hui autour d'une même revendication, la démission de Catherine Samba-Panza, Alfred Le Grand Gaïa, conseiller politique de la coordination des anti-Balaka.
Le don angolais, une partie du don angolais a été dilapidée. Je pense qu'il est temps qu'on puisse recadrer les choses. Il faut que cette équipe parte et qu'on donne une nouvelle chance pour une transition réussie à la République centrafricaine. Voilà un peu pourquoi nous avons pris cette position. En tout cas, c'est la position actuelle. On doit occuper la rue jusqu'à ce que Samba Panza quitte le pouvoir.
Le Premier ministre Mahamat Kamoun, au micro de Laurent Corot, s'indigne de cette demande de démission qui, selon lui, émane de ceux qui ont mis à genoux le pays.
Sur cette question, le Conseil national de transition a interpellé le gouvernement. Nous sommes prêts à aller faire toute la lumière quant à l'utilisation de ce don angolais. Donc, ils n'ont qu'à attendre. N'eût été ces événements, le peuple centrafricain aurait pu avoir toutes les explications nécessaires.
Tout de même, est-ce que les anti-Balaka ont bénéficié de ces fonds angolais?
Je le dirai, le gouvernement le fera savoir au moment venu.
Le Premier ministre demande à la MINUSCA et aux forces internationales de neutraliser ceux qui voudraient mettre en péril la transition. Hier, le chef de la MINUSCA, le général Babacar Gaye, a condamné les violences et encouragé les centrafricains à retrouver la voie du dialogue.
Suite d'une semaine d'actualité au Burkina Faso, cette fois, et l'échec du dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition, échec dû au blocage autour de l'article 37, le fameux article 37 de la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels, correspondant jeudi de Yahya Boudani.
Le Front républicain, qui regroupe plusieurs partis politiques de la majorité et de l'opposition, s'est dit déçu de l'échec du dialogue inclusif initié par le président Blaise Compaoré entre la majorité et l'opposition. Un dialogue que ce regroupement de partis politiques avait souhaité à travers son appel lancé à Gawa dans le sud-ouest du Burkina Faso. Face à cette impasse, le Front républicain encourage le président Blaise Compaoré, et je cite, « à prendre la décision qui sied pour garantir au Burkina Faso la paix, la stabilité et la cohésion sociale. La solution proposée est la consultation populaire. » Herman Yameogo, co-président du Front républicain.
Le consensus dont on parle, il peut se réaliser entre acteurs politiques. Ce consensus-là, c'est dans un cadre restreint, mais le consensus populaire existe. Ce référendum est maintenant d'actualité dans la mesure où il n'y a pas d'accord sur le point de la révision de l'article 37. C'est le peuple qui peut, en abordant cette question, aboutir à un consensus.
Selon les leaders du Front républicain, il faut accepter que tous les éléments juridiques permettent de réviser l'article 37 de la Constitution.
Ajouté aussi dans l'actualité africaine, le départ dans la nuit de lundi à mardi du contingent de l'armée burundaise qui était présent en RDC dans la région d'Uvira. RFI, vous avez signalé cette présence il y a un mois environ. Et la mission de l'ONU en RDC qui appelle le gouvernement à poursuivre en justice les membres de l'ex-groupe rebelle du M23 qui, selon l'organisation, se sont rendus coupables de graves violations des droits de l'homme. Yann Mince, l'Afrique est toujours présente dans l'alternative internationale. On va parler de la Centrafrique dans un instant. Et là, j'ai sous les yeux une photo de dopage sur le fameux PK5.
Oui, c'est le quartier majorité musulmane de Bangui, effectivement.
Stratégique,
on peut presque dire enclave maintenant musulmane, je pense, pour ce qui est de PK5. Effectivement, la Centrafrique, c'est le pays dont on parle, j'ai l'impression, beaucoup moins dans les médias français, sauf RFI,
évidemment.
Mais dans les autres, c'est passé un peu à l'arrière. On a l'impression que quand il n'y a plus de grands massacres, on oublie un pays comme la Centrafrique. Or, la situation, on le voit, est loin d'être apaisé, mais je dirais que on a le problème classique des pays qui n'arrivent pas à se relever d'une guerre civile, c'est qu'il faut intégrer d'une façon ou d'une autre les acteurs armés pour éviter qu'ils continuent la guerre, et en même temps, si on leur cède politiquement ou financièrement, en poste, en prébande, en argent, etc., on perpétue leur règne. Donc c'est un problème extrêmement compliqué. Je ne sais pas si la présidente Catherine Samba Panza est à la hauteur de la tâche. La question, effectivement, c'est de savoir s'il y a en dehors des acteurs armés, des forces politiques, des forces sociales qui sont capables de contrebalancer le poids des anti-Balaka et le poids de l'ex-Séléka. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on les voit beaucoup se manifester. Peut-être ils existent, mais ils sont trop dormants, je pense, dans la société centrafricaine, pardon. Je pense peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des organisations de la société dite civile, au sens large, j'aime pas trop ce terme, mais qui se réveillent un peu.
La présence mystérieuse de soldats burundais en RDC?
Bon, visiblement, le prétexte, c'était de poursuivre la guérilla du FNL en RDC. C'est toujours très tentant, quand on est un pays, d'aller mettre un pied de l'autre côté pour éviter que ça serve de base arrière contre votre propre territoire. Donc, on parlait tout à l'heure des Turcs et par rapport à la Syrie. Longtemps, l'armée turque s'est autorisée à passer en Irak pour poursuivre les guerriers héros du PKK qui y trouvaient refuge. Et donc, il y avait un droit de poursuite. Là, visiblement, les Burundais en fait plus qu'un peu du droit de poursuite, ils ont fait du droit de séjour, si je puis dire.
Le Burkina Faso a une situation politique tendue avec un dialogue au point mort, comme on dit.
Oui, un dialogue au point mort.
Avec évidemment la menace toujours de cette réforme de la Constitution.
Oui, on sent bien que le pouvoir a envie de passer. Tout d'un coup, le pouvoir burkinavé a envie de faire parler le peuple. Alors, on veut en appeler au référendum pour court-circuiter les forces politiques parce que par la négociation. Pour moi, le problème est assez simple. Il ne faudrait pas modifier la Constitution. Voilà, le président Compaoré est au pouvoir depuis très longtemps. Il est temps qu'il passe la main. La difficulté là, c'est que quand un président a été au pouvoir très très longtemps, une partie de la population craint que s'il disparaît, ce soit le chaos. Et du coup, je ne sais pas si le référendum sera organisé. Vraisemblablement, il le sera. J'espère qu'il sera régulier, mais même s'il est régulier, il est possible qu'une partie de la population vote le renouvellement, la possibilité d'un nouveau mandat, simplement par peur du chaos. S'il n'y avait pas de possibilité de renouvellement, il y aurait un changement de toute façon, on se passerait du président Compaoré.
Mais ça, c'est un des grands sujets de discussion en Afrique aujourd'hui. On en parlait la semaine dernière avec Cyril Ben-Simon du journal Le Monde, ces réformes de constitution pour permettre à certains chefs d'État de rester au pouvoir.
C'est très tentant pour un chef d'État. C'est très tentant pour un chef d'État. Et dans certains cas, effectivement, on pourrait se dire pourquoi seulement trois mandats, c'est un bon chef d'État. Je ne parle pas du président Compaoré en l'occurrence. Mais je pense qu'il faut simplement, à un moment, qu'un chef d'État, comme tout homme politique, cède la place. Et moi, personnellement, en France, je ne serais pas absolument défavorable à ce que le nombre de mandats d'un maire, d'un député ou d'un conseiller général ou d'un sénateur soit limité dans le temps, qu'il puisse en faire deux, mais pas dix.
Pour la présidentielle, c'est le cas, mais le candidat peut se représenter après. Par rapport, ce qui est très différent par rapport aux États-Unis où c'est deux mandats.
Aux États-Unis, c'est deux mandats, mais ce sont des mandats de 4 ans. Non, je pense que le renouvellement de la classe politique ne peut pas se faire si des gens sont réélus et peuvent être réélus sans cesse. C'est pas qu'ils soient pas bons, c'est qu'il faut de temps en temps céder la place.
C'est aussi comme ça que se forment les élites.
C'est aussi comme, et c'est qu'elles se renouvellent surtout.
Ouais, ouais. Alors, on va parler d'autre chose que l'Afrique, mais l'Afrique s'intéresse à toute l'actualité internationale. Je pense notamment à cette semaine à l'interrogation autour du sort de Kim Jong-un, le leader de Corée du Nord, qui a disparu.
En tout cas,
on ne le voit plus.
En tout cas, on ne le voit plus en public, y compris pour des événements auxquels habituellement il est, pour lesquels il est présent. Je crois que j'ai pu comprendre en écoutant Frédéric Ojardias l'autre jour sur votre antenne qu'il est, comme l'était le président Franco à la télé, quand je me souviens, quand j'allais en Espagne, quand j'étais gamin, on le voyait à peu près inaugurer tout, le général Franco, les écoles, tout ce qu'on veut, les hôpitaux, tous les jours il y en avait à la télé.
Là, visiblement, aussi, sur certaines chaînes de des télévisions africaines, on voit aussi la même chose.
Ça se voit sûrement. Ça se voit, j'ai quelques souvenirs, effectivement, d'avoir vu ça en Afrique. Et là, effectivement, il a disparu, le président coréen, le troisième de sa famille, puisque c'est le petit-fils de Kim Il-sung et le fils de Kim Jong-il. Donc c'est la famille Kim, la dynastie Kim qui continue dans un régime qui se présente communiste, qui est totalement paradoxal. Alors est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a été écarté? Là, visiblement, surtout en Corée du Sud, il y a des gens qui décryptent toutes les informations possibles.
Ça me donne l'occasion d'insister sur les deux pages que vous consacrez à ce qu'un spécialiste appelle la famine organisée en Corée du Nord.
Oui, il y a eu dans les années 90, à partir de 94 surtout, jusqu'en 99 en gros, une très importante famine en Corée du Nord qui a fait des centaines de milliers de morts. Et nous avons demandé à l'un des meilleurs spécialistes de la Corée du Nord, un Américain qui s'appelle Stephen Haggard, qui a coécrit un livre sur le sujet, de raconter, d'expliquer les causes de cette famine et la façon dont la Corée du Nord a géré l'aide humanitaire en interdisant certaines formes d'aide, en privilégiant certaines catégories de la population, quitte à laisser mourir des dizaines et des dizaines de milliers de gens. Et ça montre bien aussi jusqu'où un régime est prêt à aller pour sa propre conservation, un régime en tout cas comme la Corée du Nord.
Alors terminons cette émission avec le dossier que vous consacrez à l'adoption internationale, avec une interrogation, une inquiétude même, la fin de l'adoption internationale, c'est la question.
Oui, c'est un dossier qui a été coordonné par mon collègue Thomas Monneret, qui effectivement s'est interrogé sur les modalités de l'adoption internationale, effectivement. Or, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus difficile qu'avant. D'abord, il y a un certain nombre de pays qui ne souhaitent pas que leurs enfants soient adoptés, qui considèrent qu'ils peuvent les garder chez eux et les élever chez eux. Et puis, il y a, et ça c'est très bien, de plus en plus de réglementations qui évitent les adoptions sauvages, les achats d'enfants. Alors, on mettra peut-être des guillemets à achat. Tout ça a été vaguement habillé d'une forme juridique, mais qui était quand même tout à fait scandaleux. Et notamment dans des pays comme Haïti, où on s'aperçoit que traditionnellement, des parents confient leurs enfants à un orphelinat, mais pas pour l'abandonner définitivement, en espérant pouvoir le reprendre. Et ces enfants-là, parfois, étaient donnés à des étrangers en adoption plénière. Les enfants partaient alors que leurs parents étaient vivants et souhaitaient pouvoir les récupérer. Tout ça fait la réglementation fait que c'est plus difficile aujourd'hui, que les délais d'adoption en France pour adopter un enfant étranger sont beaucoup plus longs et qu'on a souvent des enfants plus âgés, des fratries ou aussi des enfants handicapés. Donc ça demande de la part des parents plus de préparation. C'est un des sujets, je crois, qui est important. Il faut que les parents adoptants puissent peut-être mieux se préparer à quelque chose qui est tout sauf un geste banal, parce qu'éduquer un enfant qui a déjà eu un passé difficile, l'aider à grandir, c'est pas forcément facile. C'est encore plus difficile que d'élever son propre enfant, probablement.
Et je précise aussi rapidement sur un tout autre sujet que vous consacrez deux cartes, une série de cartes sur la propagation d'Ebola.
Hein, oui,
parce que ça devient une peur, et pas simplement africaine, hein, on le mesure
non,
aujourd'hui.
C'est même assez triste de penser qu'on s'y intéresse beaucoup aujourd'hui en Occident, alors que par exemple les ONG comme MSF crient depuis des mois et des mois et des mois, et qu'on commence vraiment à s'intéresser parce qu'il y a des morts en Occident, même s'il y en a très 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 peu, évidemment par rapport à ce qui est le cas dans la région africaine concernée.
Merci Yann Mince, Alternative Internationale sur papier, la Russie, 15 cartes, c'est le numéro 64, et sur tablette désormais depuis peu, je suis sûr que ça va bien marcher.
Merci.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky, à écouter et à podcaster aussi sur le site de la radio www.rfi.fr. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées, bien sûr. Avec le philosophe Frédéric Worms, nous nous demanderons ce que signifie penser à quelqu'un. Je suis sûr qu'il vous arrive de penser à quelqu'un, Yann.
Même à plusieurs personnes.
Cela n'a l'air de rien, mais penser à quelqu'un implique plein de choses intéressantes. Demain dimanche, 17h-10h de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.